Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la géologie en compagnie de Jean Plaine qui nous fera visiter la collection géologique de l'Université de Rennes 1 et nous rappellera ce que sont les fondamentaux de la géologie. Bonjour Jean Plaine, vous êtes docteur en géologie, conservateur de la collection géologique et chargé des collections scientifiques de l'Université de Rennes 1. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler de la collection géologique de manière générale, nous présenter un peu le fonctionnement de la collection, nous parler un peu de son histoire?
Donc en effet, moi je suis chargé de la gestion de cette collection depuis maintenant 30 ans. Donc il y a dans cette collection des roches, des minéraux, des fossiles, donc je suis chargé d'organiser, donc de gérer tout simplement et de valoriser. Alors il y a dans ce bâtiment des collections de trois types, des collections pédagogiques, donc qui sont à l'enseignement, des collections scientifiques, donc qui sont issues du travail de recherche des chercheurs, et puis des collections un peu plus muséographiques qui sont exploitées depuis maintenant 1995. Alors ces collections sont liées à l'histoire de la ville de Rennes. Il y a eu autrefois un muséum d'histoire naturelle, donc il y avait des collections. C'est également lié à la faculté des sciences, donc créée en 1840, qui elle également avait des collections. Et depuis l'installation du campus de Beaulieu, ces collections sont évidemment regroupées et donc mises en valeur depuis maintenant quelques années.
Donc, la collection est divisée en plusieurs parties. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les parties qu'on peut retrouver en entrant dans cette collection ?
Voilà, donc en entrant dans ce bâtiment 5, donc c'est en quelque sorte un musée, hein. Il y a trois grandes parties. Il y a une partie où il y a une galerie minéralogie, donc qui présente un peu plus de 800 minéraux. Il y a une partie plus large de géologie générale, donc avec au centre de la salle des fossiles. Il y a des roches, donc correspondent à l'histoire du massif armoricain. Et puis il y a également des roches utiles aux étudiants, donc classification des roches magmatiques, des roches sédimentaires, etc. Et puis il y a une partie un peu plus appliquée, donc on explique aux gens l'utilisation des roches par l'homme.
Donc vous expliquez aux gens, donc c'est des collections qui sont ouvertes au public ?
Voilà, donc ces collections, évidemment au départ destinées aux étudiants, sont ouvertes au public depuis maintenant 1995. Donc j'accueille fréquemment du public, que ce soit des scolaires, collégiens, lycéens, tout type de groupe, et puis également des personnes individuelles.
On va commencer la visite de la collection. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de tout ce qui est minéralogique ? Donc, il y a des granites, il y a des minéraux. Ça vient essentiellement de la Bretagne ou ça vient de plusieurs endroits ?
Alors voilà, donc au départ, ce sont ces roches qui proviennent du massif armoricain, puisqu'en fait, elles sont censées raconter l'histoire du massif armoricain à partir des objets. Donc ce sont des roches. Parmi celles-ci, les plus anciennes datent de 2 milliards d'années. Ce sont les plus vieilles roches de France. Donc il y a des granites déformés. Il y a ensuite les roches d'une première chaîne de montagne, qu'on appelle la chaîne cadomienne, autour de 600 millions d'années. Ensuite, des roches de l'installation de la mer dans la région, autour de 400 millions d'années. Et puis ensuite, une nouvelle chaîne de montagnes, autour de 300 millions d'années. Et puis toute l'histoire du tertiaire. Donc il y a un certain nombre de vitrines avec des objets présentés dedans, donc qui résument en quelque sorte l'histoire du massif armoricain.
Est-ce que vous pourriez nous parler et nous présenter certains éléments qui valent la peine d'être vus, qui donneront envie de visiter cette collection minéralogique déjà ?
Je pense en tout premier lieu aux roches les plus vieilles de France qu'on a ici, des roches à 2 milliards d'années. Donc vous vous rendez compte, c'est extrêmement long, loin dans le temps. Donc des roches pas forcément spectaculaires, mais intéressantes au point de vue histoire de la région, au point de vue géologique, etc. Donc les roches ensuite, des roches volcaniques. Parlons des fameuses roches de Paimpol, ces basaltes en coussin si particulières. Ensuite les roches pour la région, les roches de la région de Saint-Malo. Ce sont des roches assez spéciales, finalement, ce n'est pas du granit, c'est des roches formées à très haute température et puis ensuite enfouies à 40 km de profondeur, aujourd'hui à la surface, donc ce qu'on appelle les migmatites. Et ensuite, les roches de la présence marine de la région. Bon, qui sait qu'à l'époque de la formation des sédiments qu'on trouve par exemple au Bouel, la région était près du pôle sud. Ça, les gens ignorent totalement. Et ensuite, peu à peu, la région va remonter vers le nord, on va voir apparaître notamment des coraux à une certaine époque. Je pense en particulier à ces roches qu'on trouve à Saint-Aubin-d'Aubigné, donc avec des coraux, des calcaires à coraux. Vous voyez, Donc c'est ça qu'on fait découvrir ici. Ensuite, les roches de la dernière chaîne de montagne, 300 millions d'années, donc des roches formées dans des conditions assez particulières, tout à fait comparables notamment aux roches qu'on trouve en Himalaya. Donc imaginez autrefois des sommets comme l'Himalaya en Bretagne, c'est difficile à imaginer, mais c'est vrai, les roches le racontent.
Donc autrefois, nous étions, enfin, la ville de Rennes était située à 8000 mètres d'altitude, c'est ça ?
Alors pas la ville de Rennes en tant que telle, c'est plutôt au sud de la région. La ville de Rennes a été à une époque, c'est autre chose, c'est la présence de la mer. Soit il y a en gros 500 millions d'années, la mer était présente dans la région, et puis un peu plus récemment, il y a 15 millions d'années, il y avait même une mer avec des requins par exemple. C'est ce qu'on appelle la mer des Falins, il faisait chaud, un paysage de type Bahamas, imaginez.
Donc vu que ces minéraux, vous parlez de requins, vous parlez de voyage dans le temps, est-ce que du coup on trouve des fossiles dans ces minéraux ?
Parmi les roches qu'on trouve en Bretagne, on trouve évidemment des fossiles à certaines époques qui prouvent l'existence de la mer. Bon, par exemple, on trouve ces fameux trilobites, ces animaux marins, si particuliers qu'on trouve notamment au sud de Rennes. Trilobites, ensuite on trouve des traces fossiles, on trouve même des coraux, je l'ai dit tout à l'heure. On trouve ensuite des plantes à la fin de l'ère primaire, des plantes du Carbonifère il y a 300 millions d'années. Donc les fossiles racontent le climat, l'environnement, ça c'est important aujourd'hui. Donc on imagine des environnements marins, environnements continentaux, des climats chauds, des climats froids. On voit même la présence de mammouths il y a 100 000 ans, les mammouths existaient dans la région. On a trouvé des restes au pied du Mont Dol notamment. Voilà. Des requins auparavant, des rhinocéros laineux, des rhinocéros sans poils, etc.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du processus qui permet justement à ces fossiles de se retrouver dans ces pierres qui nous parlent aujourd'hui dans la collection ?
Alors la fossilisation, c'est un processus un peu particulier. Bon, imaginez les animaux qui vivent, certains animaux notamment qui ont un squelette, une coquille externe sur un squelette interne. Ces animaux sont enfouis ensuite dans les sédiments, sont piégés en quelque sorte, et puis ça se compacte, ça se conserve. Et puis c'est l'érosion qui met aujourd'hui ces roches à nu, et donc on peut trouver dans ces roches ces fameux fossiles. Bon, c'est uniquement une petite partie des formes de vie qui existaient qu'on trouve aujourd'hui dans les roches.
Est-ce que vous pourriez nous parler des spécimens de fossiles dont dispose la collection ?
Alors les spécimens, on va remonter il y a bien, bien longtemps. Il y a quelques milliards d'années, on trouve des fossiles du Sahara, notamment des fameux stromatolites. Ce sont des constructions liées aux algues, donc des roches très anciennes. Ça, c'est assez original. On trouve évidemment nos fameux trilobites présents dans ces vitrines. On va trouver des traces fossiles, ça c'est important. Imaginez autrefois des plages comme aujourd'hui, on trouve des traces de locomotion, des habitats, des terriers d'animaux marins. Ça, on trouve ça fréquemment dans nos carrières au sud de Rennes en particulier, à Pimpon, à Bain-de-Bretagne, etc. Puis ensuite, on va trouver du plancton marin. On trouve des plantes anciennes. On trouve même ici dans ces vitrines, il y a 400 millions d'années, des étoiles de mer qui accompagnent des coraux qu'on trouve à Saint-Aubin-de-Mier, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on va trouver des plantes. Donc toujours à la fin de l'ère primaire, des plantes du Carbonifère, donc des plantes sans fleurs, des fougères géantes, etc. On va trouver les derniers trilobites à la fin de l'ère primaire, une araignée géante, ça qui attire beaucoup les gens. Donc à la fin du primaire, il y a en gros 300 millions d'années, donc ça vient d'Argentine. Et puis ensuite, on va trouver pour l'ère secondaire, ces fameux animaux enroulés à plat, qui sont ces ammonites, donc comparables aux nautiles actuels, au moins du point de vue morphologique. On va trouver également des cousines des ammonites, des belemnites qui ressemblaient à nos seiches actuelles. On va trouver des escargots, des poissons. Les poissons existent depuis longtemps. On va trouver des vertèbres de reptiles marins. Alors ça, c'est un peu plus particulier, c'est plus rare, évidemment. On a quelques éléments des fameux reptiles de l'ère secondaire. On va trouver ensuite des oursins. Alors là, les oursins comparables aux oursins actuels, des beaux oursins en forme de cœur. On va trouver des éponges. Les gens ignorent souvent que les éponges, ce sont des animaux. Aujourd'hui, évidemment, ce sont des éponges artificielles. Des dents de reptiles marins, les fameux ichthyosaures. Et puis ensuite, on atteint l'ère tertiaire, donc changement d'environnement, si vous voulez, changement de fossiles. On va trouver des restes de mammifères. On va trouver des plantes, des feuilles, des belles feuilles de l'ère tertiaire qu'on trouve notamment en limite du massif armoricain. On va trouver des fossiles qui viennent du bassin parisien. On se croirait sur les plages actuelles. Il y a 50 millions d'années, imaginez. Ça, c'est pas en Bretagne, c'était dans le bassin parisien. On va trouver toujours pour le tertiaire les fameux gastéropodes géants, les campaniles géants, des beaux coquillages de très grande taille. Vous voyez, alors ça, c'est en fait toute une ménagerie, si vous voulez, comparable aux animaux actuels pour certains. Des beaux poissons fossilisés. Et puis on atteint à l'ère tertiaire toujours la fameuse mer des Falins, j'en ai parlé à l'époque où la mer recouvrait l'est du massif armoricain, avec des coquillages tout à fait comparables aux coquilles Saint-Jacques actuelles, des coraux, quelques bois silicifiés, des balanes. Ah, les gens ignorent souvent ce que c'est que les balanes, des crustacés, soit ancrés sur leurs rochers aujourd'hui. On trouve même la couleur dans ces fossiles. et puis on atteint les fameux animaux, soit marins, soit terrestres, de la mer des Falins, avec des dents d'animaux comparables aux éléphants actuels, des proboscidiens, on appelle ça, des animaux à trompe, qui ont été trouvés notamment des pièces historiques, qui ont été trouvées dans la région de Charles-de-Bretagne en 1854 par Marie Rouault, des siréniens, alors ça aussi, ce sont des animaux peu connus, évidemment des belles dents de requin. Et puis, on arrive au quaternaire, il y a à peu près 100 000 ans, avec toutes les dents de mammouth qui ont été trouvées au pied du Mont Dol. Alors ça, ces dents, ces restes d'animaux, sont environnés ici, dans ce bâtiment, des fameux panneaux de Mathurin Méheux qui présentent ces animaux. Donc il y avait des rhinocéros laineux, des bisons, des mammouths, on en a parlé, des rennes. Toute cette faune vivait en même temps que l'homme qui était installé en Bretagne et chassait ces animaux. Ça, on le sait aujourd'hui. Notamment les mammouths étaient chassés par les hommes présents dans la région.
Donc, est-ce que vous pourriez nous parler plus sur les sources de tous ces fossiles? Parce que de ce qu'on a pu voir, il y en a qui viennent d'ici, il y en a qui viennent d'ailleurs. Alors, comment ces fossiles sont arrivés dans la collection?
Bon, il y a plusieurs voies d'apport des fossiles. Il y a des collections qui ont été achetées, notamment au début du XXe siècle, au départ pour l'enseignement. Il y a des fossiles, évidemment, amenés par les chercheurs au cours de leur travail. Il y a des choses issues de fouilles préhistoriques au pied du Mont Dol à la fin du XIXe siècle. Donc, plein de voies d'apport de ces fossiles. Donc ce sont des collections relativement anciennes, mais très utiles aujourd'hui.
Donc là, c'est un véritable voyage dans le temps que vous nous faites faire. On est passé donc de 2 milliards d'années à l'homme qui est arrivé. Qu'en est-il de la géologie actuelle?
Chacun sait que la Terre, c'est une planète active. Hein, on voit les séismes, le volcanisme. Donc la Terre produit des roches en permanence. Et dans nos vitrines, on a des roches, notamment liées à la tectonique des plaques. Donc il y a ici des objets qui présentent les zones de subduction, les zones de collision, etc., etc. Des roches volcaniques essentiellement, magmatiques au sens large. Donc il y a ici des roches du Massif central, pas besoin d'aller loin pour trouver des choses intéressantes, avec des enclaves qui illustrent la nature du manteau sous la croûte, donc le transport du magma des profondeurs vers la surface. Il y a également des roches beaucoup plus profondes, notamment des roches qui ramènent en surface les fameux diamants, donc des roches ultra basiques, qu'on appelle des kimberlites entre autres. Donc ça, c'est vraiment la géologie active, actuelle ou récente. Il y a également des roches qui représentent le devenir des fonds océaniques. Normalement, les fonds océaniques naissent et disparaissent dans ces fameuses zones de subduction. Et là, on a des roches qui illustrent la croûte océanique conservée, notamment en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une croûte océanique conservée avec des gabbros, des péridotites, etc., etc. On a même ici des roches qui illustrent cette subduction avec le volcanisme de la chaîne des Andes. Alors dans les Andes, vous savez, en surface, on va trouver les volcans, mais en profondeur, des roches magmatiques. Donc on a ici notamment les andésites, donc les roches nées dans la chaîne des Andes. On a également des roches du Pérou qui représentent les zones profondes de la chaîne des Andes. Et si on compare ça avec des roches du massif armoricain, on a les mêmes dans le massif armoricain. Il y a 600 millions d'années, il y avait la même chose. On a également, un peu plus loin, les roches des îles qu'on trouve dans les océans, notamment la Réunion. C'est ce qu'on appelle des points chauds. Donc les basaltes des points chauds sont présentés dans nos vitrines. Toute une série de roches, les océanites, les gabbros, les basaltes. On a même des granites, alors non plus des zones de subduction, mais des zones de collision, des granites de l'Himalaya, tout à fait comparables aux granites qu'on trouve notamment en Bretagne Sud, à Quiberon. Donc imaginez autrefois à Quiberon, il y a 300 millions d'années, peut-être des reliefs identiques à l'Himalaya. Les roches le prouvent, on a les mêmes granites. Alors encore plus rares, on a ici des laves très anciennes, qui représentent sans doute les premiers temps du volcanisme à la surface de la Terre, ce qu'on appelle des comatites, donc issus de l'Afrique du Sud. Ce sont des roches très spéciales. Alors pourquoi on a ça ici? Tout simplement parce qu'un chercheur est passé à Rennes, travaillait sur ce type d'objet et a laissé en collection, ça c'est essentiel, en collection, ce type d'objet aujourd'hui présenté à la fois au public et aux étudiants. Donc ça c'est fondamental, vous voyez pourquoi on a ça ici. Donc des roches très spéciales qu'il n'y a pas évidemment dans toutes les collections.
Il est temps de faire une petite pause musicale avec Alice Russell et le titre A to Z.
Like this circumstance depending on me.
Donc les étudiants en géologie peuvent se servir du matériel de la collection.
Ah bah c'est fait pour ça, on a à la fois évidemment des collections pédagogiques, mais même les échantillons qui sont ici dans le musée, dans les vitrines, servent en partie à l'enseignement.
Vous avez également quelques pièces d'ossements et des moulages de crânes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ?
Donc voilà, bah comme ossements, on a une partie de mâchoire de mammouth. On a également un crâne de rhinocéros actuel. Et puis, on a des moulages, effectivement, d'animaux du tertiaire. Hein. Donc, des proboscidiens, animaux avec des trompes, donc avec des dents parfois impressionnantes. Donc ça, ce sont des moulages utiles à l'enseignement qui ne servent plus vraiment aujourd'hui, qui ont été achetés. Donc, on a ici un platybélodon. C'est un nom un peu compliqué. Oui. Un mammifère d'Asie et d'Amérique du Nord, donc du tertiaire. Donc là, c'est un moulage. Hein. Évidemment, ça impressionne les gens, donc notamment avec les dents, mais surtout, c'est celui-ci, hein. Dorudon atrox, un cétacé ancien, donc avec ses dents très adaptées à son régime alimentaire. Et puis ici, pour plus connu sans doute, le Moritorium, donc un petit mammifère, un proboscidien toujours, donc avec ses dents et puis ses petites défenses à l'extrémité du crâne.
Du coup, ces moulages ont été réalisés à partir de fossiles qui ont été trouvés en Bretagne ?
Ah non, pas en Bretagne, donc ce sont des fossiles classiques qu'on va trouver dans les musées, hein, donc ce sont des moulages également classiques. Hein. Non, on ne trouve pas du tout ça en Bretagne. À l'époque, il n'y avait pas... Du moins, on ne connaît pas ces animaux-là en Bretagne. Mais je l'ai dit tout à l'heure, en Bretagne, on trouve des restes de proboscidiens, effectivement, des dinotériums, des mastodontes qui ont été trouvés à Chartres de Bretagne. Donc c'est la même famille, c'est le même groupe, mais bon, ce n'est pas du tout, évidemment, le même anatomie.
Donc là, nous sommes dans l'espace de géologie appliquée. Qu'est-ce que vous appelez la géologie appliquée ? Est-ce que c'est appliqué parce que l'homme l'utilise dans la construction ? Est-ce que c'est appliqué parce que les étudiants les utilisent pour des exercices appliqués ?
Non, c'est appliqué parce que l'homme utilise ces matériaux dans les constructions, dans les bâtiments, etc. Dans le bâtiment, la voirie, entre autres. Donc il y a ici les ardoises. Donc tous nos sédiments fins, notamment en Bretagne, ont été utilisés pour faire des ardoises. On va trouver ça sur les toits. Il y a de l'ardoise évidemment bleu-noir. Il y a même de la rouge, c'est peu connu. De l'ardoise un peu verte, etc. Donc on voit les bassins classiques, renasés, trélazés. Moins connus, Pléchâtel, Augan dans le Morbihan. Vous voyez, Pleuermel, ardoise assez confirmée au début du XXe siècle. Hein. Ardoise de Caux, etc. Alors là, plus actuel, ce qu'on appelle les granulats. Alors les granulats, ce sont des roches broyées, concassées, notamment des roches soit massives, soit des roches meubles. Et les granulats sont utilisés par là. Chaque habitant en France utilise par an, c'est une statistique, une moyenne, 8 tonnes de granulats, soit dans le bâtiment, le BTP, la voirie, etc., etc. Donc aujourd'hui, toutes nos carrières en Bretagne, quasiment toutes, sont uniquement dédiées à la production de granulats. Donc ça, c'est fondamental au moins à connaître, hein, les graviers de tout venant. Alors il y a évidemment des choses un peu plus industrielles encore. Ce sont des éléments utilisés par l'homme des grandes carrières de Bretagne. Les gens ignorent souvent qu'il y a en Bretagne une carrière, notamment près de Rostrenin, qui fournit de l'alumine, donc des minéraux exploités, utilisés pour extraire l'alumine, notamment à Glomel. Hein. Donc ça, c'est vraiment une carrière majeure en Europe de ce point de vue-là. Donc ça, c'est évidemment des éléments très utiles à l'homme pour faire des céramiques, porcelaines, des briques, etc. Il y a également, évidemment, les sables, l'argile pour la poterie, bon, évidemment, utilisée autrefois. Et puis, ici, alors pas en Bretagne, mais les sels, sels de potasse, sels gemme, le gypse utile à l'homme pour faire le plâtre. Donc c'est le minéral qui fournit le plâtre. Le talc, les gens ignorent souvent que le talc, c'est un minéral. Il y a les kaolins. Les kaolins, notamment en Bretagne, tout le monde connaît les kaolins de Pleumeur à côté de Lorient, les kaolins bériens également. Il y a le charbon, le pétrole, ce qu'on appelle les éléments carbonés. Il y a les minerais, alors les minerais métalliques, les minerais de tungstène, les minerais d'étain, les minerais de fer, etc. Voici ici un échantillon très utilisé pour l'enseignement. C'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot un peu compliqué, les bifs. Alors c'est un mot anglais, ça veut dire minerai de fer rubané, qu'on va trouver dans les régions anciennes, c'est le moment où l'atmosphère primitive change, s'enrichit en oxygène et c'est le moment de la formation des grandes accumulations de fer exploitées aujourd'hui notamment au Canada, en Mauritanie. Alors ça, c'est très, très utilisé, ce sont des échantillons relativement rares et donc précieux pour l'enseignement. Il y a plus proche d'ici, enfin de Rennes, c'est la magnétite qu'on trouvait autrefois à Dielette, donc c'est à Flamanville, donc c'est une mine assez connue. Les minerais de fer de Lorraine, la fameuse minette de Lorraine, là également des échantillons utilisés pour l'enseignement. Ici, les bauxites, les minerais d'aluminium, toujours. Et puis, un minéral très intéressant au point de vue économique aujourd'hui. Quand on parle de lithium, tout le monde aujourd'hui a entendu parler du lithium. Donc voici ici un mica riche en lithium, mica rose. Voici ici un minerai de cinabre, une chromite, donc pour le chrome. Là également, des échantillons utilisés pour l'enseignement, entre autres, mais exposés au regard des visiteurs. Les pierres marbrières. Les granites utilisés en Bretagne, le granit de Welgoat, le granit de Plumana, bien connu, le fameux granit rose. Quelques éléments issus de la technique d'exploitation des carrières, notamment les fils à diamants pour couper la roche. Donc une culture géologie appliquée, aujourd'hui très utile aux étudiants, évidemment, qui cherchent après leurs études du travail. Ça, c'est fondamental également à montrer au moins au départ.
Alors, on voit ici quelques éléments qui démontrent des résultats de forage, de sondage, des carottes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement le fonctionnement du forage en géologie ?
Alors, c'est tout un monde, hein, le forage. Il y a plusieurs types de forage, mais le plus classique, c'est le forage carotté. Donc, c'est-à-dire qu'on remonte des profondeurs du sous-sol, des carottes, des tubes de roche qui sont ici exposés. Il y a différents types de tailles de forage. Dites grande taille, petite taille, donc on a des éléments ici, c'est du granit foré, etc. Il y a également le forage de marteau fond de trou. Bon, il y a évidemment des forages pour l'hydraulique, pour le pétrole, pour les éléments naturels, pour les minerais, pour les pierres, tout simplement. Hein. Donc toute une panoplie de techniques appropriées aux géologues.
Comment ça fonctionne le fil diamanté ?
Alors c'est un fil qui est recouvert de diamants, mais non pas naturel, évidemment, de diamants artificiels, donc qui est passé entre deux poulies, et simplement le mouvement de rotation, enfin de va-et-vient, si vous voulez, du fil sur la roche permet de la découper. Bon, ça se fait classiquement dans les industries, notamment pour faire du mobilier urbain, etc., qu'on a en Bretagne. Hein.
Donc là, nous sommes dans la collection des minéraux, donc qui est beaucoup plus graphique et qui parle en général, j'imagine, beaucoup plus. Que vous pourriez nous l'introduire et éventuellement nous parler un peu de le cabinet des curiosités de Robien.
Voilà, donc parmi les pièces les plus anciennes de nos collections figurent évidemment les objets confisqués à la famille de Robien après la Révolution française. Ça comprend pour les minéraux essentiellement des objets en agate, donc issus du cabinet de curiosités de ce personnage rennais. Et donc on a ici quelques éléments de sa collection. Donc c'est de l'agate, c'est la première collection minéralogique constitué ici à Rennes, et ensuite va s'organiser une collection minéralogique pour le Muséum d'Histoire Naturelle, puis à la Faculté des Sciences, et ce sont ces objets qui sont en grande partie aujourd'hui présentés dans ces vitrines. Donc, dans ces vitrines, il y a à peu près 800 minéraux exposés. Alors pour le non-spécialiste, c'est un monde de couleurs, de formes, de choses assez curieuses, mais il y a l'essentiel à connaître ici. Donc on voit immédiatement des couleurs jaunes, des couleurs dorées, des couleurs un petit peu gris métalliques. Alors curiosité, on voit, il y a évidemment ici des choses relativement rares, notamment ce qu'on appelle les éléments natifs de l'or, de l'argent, en particulier de l'or de Martigny-et-Ferchaud. Les gens ignorent souvent qu'il y a eu de l'or de trouver à Martigny-et-Ferchaud, donc en Ille-et-Vilaine. Il y a évidemment du cuivre, du soufre. Et puis ce qui intrigue un peu plus les gens, c'est ces objets qui ont une forme vraiment spécifique, une forme très géométrique, notamment des cubes presque parfaits, la pyrite qu'il y a ici. C'est un cristal de pyrite, de sulfure de fer, donc de pyrite. Et les gens ignorent souvent que la nature fait des choses géométriques comme ça. Alors évidemment, ce sont des raretés dans la nature. La plupart du temps, les minéraux, ce sont des grains, comme dans le granit. Mais là, c'est l'expression même de ce que peut faire la nature. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des cristaux dans la nature qui font plusieurs mètres de long. Notamment, récemment, on a trouvé au Mexique des cristaux de 12 mètres de long, de gypse. Donc il y a ici des cristaux, évidemment, de plus petite taille, mais des formes particulières, donc des cubes, des prismes, des fibres, des feuillets. Tout ceci, c'est le monde minéral, peu connu des gens. Donc le souci également dans cette vitrine, c'est de conserver évidemment un patrimoine de la ville de Rennes et puis aujourd'hui de l'université de Rennes, et également de montrer aux gens la diversité des éléments naturels. En dehors, évidemment, les gens connaissent un petit peu les animaux, les végétaux, mais le minéral, ça, c'est assez problématique. Et surtout, les gens ignorent souvent que toutes nos roches sont constituées de minéraux. Évidemment, pas forcément aussi magnifiques que dans cette galerie, mais toutes les roches, donc des grains de quartz, de feldspath, de mica, notamment du granit, tout le monde connaît en Bretagne, Donc il y a ici des cristaux de mica, des cristaux de quartz de grande taille. Tout ceci, c'est l'oreille minérale.
Et donc du coup, c'est quoi la différence fondamentale entre des cristaux et des minéraux ?
Alors voilà, ça c'est une question évidemment assez difficile, mais retenez qu'un minéral, c'est un assemblage d'atomes. Alors toutes les roches sont constituées de minéraux, et lorsqu'un minéral peut acquérir sa forme géométrique propre, notamment on voit des faces, on voit des angles, je l'ai dit tout à l'heure, des prismes, des pyramides, des cubes parfaits, ça ce sont les cristaux. Donc le minéral, il a un nom, prenons l'exemple de la pyrite, donc c'est un sulfure de fer naturel qui est pour nom pyrite, et lorsqu'il est bien cristallisé, on appelle ça un cube, un cristal de pyrite. C'est la différence essentielle. Donc c'est la forme la plus aboutie de cet élément naturel. Alors il y a une notion également que les gens ignorent, c'est la notion de minerai, minéral, minerai. Bon, un minerai, c'est tout simplement un minéral qui a une valeur économique à un moment donné, dans un endroit donné. Par exemple, le minerai de plomb est extrait, et le plomb est extrait de plusieurs minéraux. Ça peut être des sulfures de plomb, des carbonates de plomb, des phosphates de plomb. Vous voyez un petit peu la différence, la nuance. Mais retenez, un minéral, c'est une population d'atomes, une roche, c'est une population de minéraux, et de temps en temps, dans les roches, on trouve des beaux cristaux.
Donc du coup, dans le milieu minéralogique, le mot caillou n'existe pas.
Si, on peut l'employer, un caillou, ça, c'est le mot, on va dire, banal, je dirais. Nous, on parle de roche. Un caillou, c'est une roche. Sauf pour le caillou de Rennes. Bon, c'est une exception, c'est une forme un peu particulière, c'est une spécialité de la ville de Rennes, mais non. Roche, minéral, roche. Caillou, c'est le nom commun. Ce n'est pas forcément une insulte de dire un caillou, mais bon, voilà, c'est le nom commun. On peut taper dans un caillou, on ne tape pas forcément dans une roche. Alors, une notion également, c'est la notion de pierre par rapport à un roche. Une pierre, c'est une roche taillé, utilisé par les gens pour construire, pour bâtir, pour édifier. C'est la différence essentielle. C'est le mot industriel pour une roche. Pierre, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'utilisation en général des roches dans l'industrie ou dans l'usage humain ?
Le minéral plutôt que la roche, mais le minéral est partout. Bon, imaginez les premiers dessins dans les grottes, les cavernes. Par l'homme préhistorique, c'est un dessin à partir de pigments. Les pigments, c'est du minéral. Ça peut être brun, ça peut être jaune, ça peut être noir, etc. Alors les minéraux sont utilisés par l'homme dans l'industrie, les métaux notamment. Imaginez le tungstène, les filaments de tungstène. On a le plâtre, c'est un minéral, c'est du gypse, le talc, etc., etc. Tous les minéraux sont utiles à l'homme. Imaginez dans une peinture notamment, on peut trouver du mica en abondance. Les mica également, je reviens au mica, c'est utilisé dans l'électricité. Dans les peintures, je l'ai dit, on a des minéraux évidemment un peu plus dangereux, je dirais l'amiante. C'est deux minéraux principaux qui fournissent l'amiante, mais tous les minéraux sont utiles à l'homme. C'est fondamental. Les minerais, j'en ai parlé, minerais de nickel, c'est un minéral, c'est la garniérite. L'andalousite fournit l'alumine, la bauxite fournit l'alumine, etc. etc. Sans parler des pierres précieuses. Sans parler également de l'or, de l'argent, des pierres précieuses comme le rubis, le saphir. Hein. Les gens ignorent souvent que le rubis et le saphir, c'est un seul et même minéral, mais coloré différemment. Enfin, en bleu pour le saphir et en rouge pour le rubis. Il y a du minéral partout.
Pour illustrer les collections géologiques, on trouve de nombreuses toiles de Mathurin Méheux. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler plus en détail ?
Alors voilà, ces toiles ont une longue histoire. En fait, c'est aussi un patrimoine pictural de diversité. Si on revient à l'origine de ce décor, c'est un décor qui avait été commandé par le professeur de géologie de l'époque, Yves Milon, en 1943, pour illustrer, pour décorer un bâtiment original dans le monde universitaire. C'était son institut de géologie. Aujourd'hui, c'est la présidence de Rennes 1. Il avait commandé à l'artiste 25 toiles pour décorer son bâtiment. Alors ce décor va être réalisé pendant la guerre par Mathurin Méheux qui associe à son travail Yvonne Jean Affen. Et donc ce décor va être apposé sur les murs de l'Institut pour son inauguration après la guerre. Et en fait ce sont des toiles géologiques. Le professeur avait imposé les thèmes. Alors c'est des animaux préhistoriques, ce sont des géologues au travail soit sur le terrain soit au laboratoire, ce sont des paysages, ce sont des faunes et des flores des aires géologiques. En fait tout un ensemble de thèmes si particulier. Il avait également imposé la facture de ces toiles, en l'occurrence les tons, un camailleux de gris, d'ocre, pour aller avec la neutralité des collections et puis du mobilier. Et donc ce qui fait aussi l'originalité de ce décor. Alors ce décor va exister dans ce bâtiment jusqu'en 72, il va être déposé par la suite, classé monument historique par les bâtiments de France en 1990, restauré en 1992 et apposé sur les murs des bâtiments ici à Beaulieu en 1995. Et dans l'œuvre de Meheux, c'est tout à fait original, c'est le seul décor qui subsiste. Il est à thème géologique, une facture, je l'ai dit, particulière, et il est intégral, c'est-à-dire qu'on a toute l'œuvre, ce qui fait aussi le prix de cette collection. Aujourd'hui visité, d'une part pour son intérêt esthétique et puis également pour son intérêt un petit peu géologique qui va avec les collections. On a retrouvé ici, si vous voulez, l'ambiance qui pouvait exister rue du Tabor, donc à l'Institut, avec les toiles environnant les collections de roches, de minéraux et de fossiles. Alors il y a des toiles également dans les salles de cours, autres que le musée, et donc ces étudiants notamment vivent dans un lieu confortable et agréable. C'est tout à fait unique dans un milieu universitaire, ce type de présentation.
C'était donc Jean Plaine de la collection géologique de Rennes 1. Il est maintenant temps de nous quitter. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site de l'émission radiocampusrennes.fr/labm. Restez à l'écoute de Radio Campus Rennes et à très bientôt.